Et bonjour James.
Et salut Chris, comment ça va?
Bah écoute, ça va, hein, ça va très bien. On se mardi vendredi, on peut dire ça. On enregistre
C'est
mardi
ça.
soir, mais c'est une diffusion en podcast vendredi. Et on est en direct sur Twitch, hein,
Excellent.
je préviens.
Et on va y venir de plus en plus souvent en direct sur Twitch. Alors, s'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à suivre les actus sur les pages Instagram, Facebook et Tutti Quanti pour savoir quand sont ces enregistrements. Ces enregistrements de Et alors, notre émission devenue de plus en plus culte. Et justement, et alors, t'as fait quoi de ta semaine, toi, Chris?
Avant de te dire ce que j'ai fait de ma semaine, je veux bien mettre des renseignements supplémentaires. On a à peu près 200 auditeurs sur les podcasts, donc on les salue. Ouais, il faut vérifier les réseaux sociaux pour les dates d'enregistrement, parce que pour le moment, on n'a pas encore de date précise. Normalement, c'est le dimanche, là on est mardi. Normalement, on est plusieurs, là on n'est que deux. Enfin, les choses vont évoluer. Donc, restez à l'écoute, comme disent les pros. Comment a été ma
C'est ça,
semaine?
rester
Comment ce...
branché.
Merci... Pardon, je t'ai
Non, pas
coupé.
comment a été. Et alors, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine?
Qu'est-ce que... Eh bien, j'ai été au cinéma. J'ai vu Dune 2, j'ai vu L'Emprise. L'Emprise, on n'en parlera pas aujourd'hui. On va en reparler dans une autre émission. J'ai vu d'autres films aussi. Et pas mal de séries, je dois avouer. J'ai fait une semaine série Netflix Disney+. Et toi-même?
D'accord. Ah bah et alors moi qu'est-ce que j'ai fait? Bah pareil, j'ai été au cinéma aussi pour pouvoir préparer cette émission. Tout comme toi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Il faut bien. Hein, et j'ai fait pas mal de sport aussi le week-end dernier. Voilà. Ça m'a permis d'avoir quelques courbatures et quelques mal de dos au vu de mon âge qui commence à avancer.
Moi, heureusement, je n'ai pas ce problème-là, puisque je rappelle que j'ai 21 ans.
Et tout le monde y croit et ça s'entend bien à ta voix. Bon, je te propose qu'on commence.
Allez, en avant.
Ah voilà, bon déjà, hein, voilà, comme tu disais, on est deux. Ben voilà, on va peut-être être deux de plus en plus souvent, mais pas sûr. Ça dépend des emplois du temps de tout le monde, mais on va essayer de vous proposer une émission de plus en plus différenciante si on se retrouve à deux avec Chris. Allez, tout de suite, on attaque avec le programme. Alors, moi, je te propose aujourd'hui, Chris, de parler dans notre moment instant culte. Hein, on rappelle à tout le monde l'instant culte. Des films, séries cultes, devenus cultes au fil des ans. Et aujourd'hui, on va parler du cinquième élément.
Nickel, cinquième élément, j'adore. Mais comme c'est l'actualité, on parlera aussi de Dune 2, je te propose, qui est sorti
Ah
il y a une semaine, il me semble. Hein.
exactement, tout à fait. Une semaine à partir de demain et une semaine il y a 2 jours pour ceux qui nous écouteront vendredi en podcast. On parlera aussi d'une journée parce que voilà, on enregistre surtout pour le vendredi 8 et le vendredi c'est vendredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Voilà, on débattra autour de ce sujet sociétal.
Ouais, alors je préviens, je pense que mon avis va pas faire que des heureuses. Mais on en reparlera.
Eh ben super, bah écoute, je te propose de commencer. Je te laisse lancer le générique, toi qui es à la réalisation et aux manettes.
En avant pour le jingle.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
Alors ça, c'est du jingle, hein. Je veux pas dire, mais c'est du
C'est
vrai
vrai que
bon
notre jingle,
jingle.
il est quand même bon et moi je l'aime et j'espère qu'on se le fera jamais piquer. L'instant culte, donc je rappelle une dernière fois, enfin une autre fois à tous nos auditeurs, l'instant culte, ça nous permet de revisiter des films ou des séries, d'en parler, des films qui sont devenus cultes au fil des années. Ça peut donner l'envie à certains de revoir ces films ou séries et ça peut donner envie à d'autres plus jeunes de les découvrir. Et je vous propose aujourd'hui qu'on parle du cinquième élément, le cinquième élément, donc un film de Luc Besson, mais très international, un réalisateur français, mais un film très international parce qu'avec en vedette Bruce Willis et Milla Jovovich. Et juste avant de commencer, j'aimerais te poser une question, Toff, pour tester un peu ta culture et j'aimerais que tu y répondes si tu peux. J'aimerais que tu me dises dans le cinquième élément, à un moment, il y a une scène qui est devenue culte avec une diva
Oui.
qui chante sur scène. Est-ce que tu sais qui incarne cette diva à l'écran?
Alors ça, c'est une colle.
Ah,
Alors donc c'est une
je savais
femme,
que
une
j'allais te coller sur
française.
cette question. Exactement, c'est une française,
C'est
tout
Mylène
à fait.
Farmer?
Non, pas du tout.
Non?
Oh, tu l'aurais reconnu quand même, toi qui es fan de Mylène Farmer.
Donc c'est une chanteuse à la base ou pas? Ou c'est une
Non, pas du
actrice?
tout, pas du tout une chanteuse. C'est une actrice réalisatrice et très importante à l'époque pour dans la vie de Luc Besson, justement. Si tu connais un peu l'actu sur Luc Besson.
Maïwenn?
Exactement, tout à fait. Bien joué. Oh, t'es fort. Et je vois que tu as bien révisé tes classiques et la vie de ce célèbre réalisateur. Effectivement, c'est Maïwenn, donc l'ex-femme de Luc Besson, sa femme à l'époque, hein, au moment du tournage. Et c'est Maïwenn qui interprète la diva bleue. Alors, par contre, c'est pas elle qui chante, hein, mais elle ne faisait qu'interpréter ce personnage secondaire du film.
Ah, c'est fou, je savais pas du tout que c'était Maïwenn. Je savais que la chanteuse, c'était il me semble une cantatrice célèbre à l'époque qui avait interprété la chanson du film, mais je ne savais pas qu'elle c'était Maïwenn qui était dans le costume tout bleu.
Eh ben si, alors c'est même pas un costume, hein. C'est vraiment du maquillage. Et c'est vrai que, alors moi j'ai été étonné aussi de cette info, parce que je connais surtout Maïwenn en tant que réalisatrice et actrice dans ses propres films, mais j'ai envie de dire sur le tard. Et c'est vrai que donc je me suis re-regardé le film avant de préparer cette émission. Et c'est vrai que quand on regarde bien, ben on la reconnaît bien et on reconnaît surtout sa bouche qui est particulière quand même. Elle a les dents assez avancées et c'est vrai qu'on le voit très bien dans le film.
Bah tiens, je vais re-regarder la scène pour voir ça. Je dis re-regarder,
Pour voir
mais
si je ne mens pas, parce que tu me fais pas confiance, hein, c'est ça?
non, 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 c'est juste pour c'est juste pour voir pour la voir dans un autre rôle, quoi. Je ne la voyais pas du
Ça
tout
marche.
là-dedans. C'est bien, tant mieux.
Super. Bon, alors, le cinquième élément, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous pitcher un peu le film. C'est un gros film de science-fiction qui a fait sensation et fureur. Donc, comme je le disais, avec Bruce Willis et Mila Jovovich, hein, donc des vedettes internationales et qui le sont devenues encore plus. Avec ce film, voilà, c'est l'histoire de Corben Dallas qui doit sauver le monde en quelque sorte, puisque un grand méchant du nom de Zog veut réunir les quatre éléments et même le cinquième élément pour s'emparer du pouvoir de la Terre et même au niveau planétaire. Voilà, c'est un film vraiment devenu culte. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce film, Chris? Puisque c'est complètement ta génération comme la mienne.
Alors, moi, c'est mon film préféré de Luc Besson. C'est un des seuls que je trouve abouti et j'allais dire correct. C'est horrible pour ses autres films. Mais on avait parlé de son dernier film, Dogman, qui était en deçà des attentes. Mais revenons au cinquième élément. Je digresse un peu trop, je suis désolé. J'ai une anecdote sur le cinquième élément. C'est le premier film que j'ai vu deux fois d'affilée. Après, il y en a eu d'autres hein, que j'ai vu plusieurs fois grâce à la carte UGC illimitée. Mais c'est le premier film que j'ai vu deux fois d'affilée. Et la première fois que je l'ai vu, c'était dans un cinéma art et essai. Donc c'était une ambiance très sérieuse, vraiment très sérieuse. Les enjeux étaient au premier degré, est-ce qu'il va réussir à sauver la Terre, etc. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'est dans une salle, on va dire, populaire, et où ben, j'ai pas vu le même film. C'est-à-dire que la salle rigolait, j'ai vu un film plus comique que science-fiction. C'est-à-dire lorsque... Oui?
Non, je disais, c'est vraiment le pouvoir de ce film-là, hein, justement, c'est que il est tout aussi sérieux avec de vrais sujets de l'époque, un gros sujet politique, un gros sujet sociétal de classe sociale, mais en même temps, c'est un film qui est extrêmement drôle, d'ailleurs très très étonnant pour Luc Besson parce que lui n'est pas du tout dans la comédie, même si dans tous ses films il y a une part de comédie, c'est vraiment très léger, alors que dans celui-ci, bah oui effectivement, on peut se bidonner du début à la fin si on est vraiment très bon public.
Ben ouais, exactement. Et je m'attendais pas à rire autant à la deuxième vision. Moi, j'étais passé totalement à côté du côté humour à la première vision. Mais lorsque je l'ai vu une seconde fois avec je ne sais plus qui, toutes les scènes recèlent un effet comique. Auto-wash, rien que dire ça, ceux qui ont vu le film vont comprendre à quoi tu fais référence. Ou quand Bruce Willis répète Lilou comme un abruti dans le rétroviseur de son taxi. Tout était drôle en fait dans le film. Et c'est vraiment
Oui, c'est vrai.
deux effets quoi. Et c'est ça que j'ai aimé dans. Heureusement que j'ai été le voir une deuxième fois.
C'est vrai, oh, bah, tu l'aurais revu après plus tard, même si tu n'avais pas été le voir au cinéma. Mais oui, je te rejoins, il y a des moments cultes avec des choses cultes et même des. Voilà, hein, je parle de l'acteur Chris Rock, hein, qui est un géant du rire américain,
Ouais.
Qui a souvent présenté les Oscars et qui a un rôle extraordinaire dans le film. Pareil, pour ceux qui le connaissaient déjà, c'est Green, Super Green, voilà, hein, tout le monde va se reconnaître. Et même par des petites phrases, je te rejoins. Multipass, Lilou, Dallas, Multipass, hein, c'est des mots qui sont ou des bouts de phrases qui sont devenus cultes et qui pourtant sont vraiment très anodines et très concrètes. Je sais même pas si Besson s'attendait à un tel pouvoir comique dans ce film-là.
Mais je me demande si c'est ce film qui a pas lancé j'allais dire son délire, qui a pas lancé son délire Europa Film, Europa Corp, avec sa Cité du cinéma,
Ah si.
etc. Parce que ça a fait un succès énorme, hein, ce film.
Ah oui, ah ben ça a fait un succès énorme, hein. Avant sa descente aux enfers, enfin là, c'était le réalisateur français qui aurait pu se faire arracher de toutes parts aux États-Unis par tous les gros studios et les grosses réalisations, hein.
Il a préféré lancer son studio de cinéma qui, hélas, a périclité, quoi.
Exactement. Et donc
Mais
voilà.
de
Alors,
mémoire, il
je te
sortait
trouvais.
de... Oui, vas-y, je te
Ah non,
coupais.
je te trouvais un petit peu dur quand même en disant que c'était sans doute l'un de ses seuls bons films. Faut pas. Il a quand même fait Léon et je trouve que Léon était quand même un super film. Je te trouvais un peu dur.
Alors, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je pensais plutôt à un film qui perdure, quoi. Léon, tu le revois aujourd'hui, je pense que t'as pas le même plaisir de cinéma, pareil que Nikita, ou même Le Grand Bleu, tu le revois, moi je le revois aujourd'hui, je m'emmerde, quoi. Alors
Oui.
que Le Cinquième Élément, il y a une vraie notion de divertissement, et comme on a vu avec d'autres films, j'ai oublié le titre, mais ça va me revenir. Ah non, c'est une émission qui n'a pas encore été diffusée, pardon. Donc je spoil un petit peu. Mais je me suis auto-perdu. Bref, il y a vraiment un double plaisir dans le film et une double lecture. Et moi j'aime bien quand il y a des doubles lectures comme ça. Et c'est en ça que je dis que c'est l'un des films des plus réussis. C'est-à-dire que si tu regardes ton second film de science-fiction, Valérian et la Cité des Mille-Planètes, à la première vision, c'est de la merde. À la seconde vision, ça reste de la merde. Ça,
Oh là là,
c'est
ça y est,
violent.
ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Chris est de retour. Chris est de retour avec ses jolis mots. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. J'ai adoré Valérian et j'ai retrouvé. Alors, bien sûr que c'est pas au niveau du cinquième élément, mais on pouvait pas s'attendre à un niveau du cinquième élément. Mais j'ai trouvé ce film vraiment, vraiment intéressant, avec des bons acteurs, des bons choix,
Alors non.
des bons choix. Ouais, bah oui, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord.
Je peux pas te
Mais comme
laisser dire
souvent
ça,
sur les
quoi. C'est
films
pas
de
possible.
science-fiction.
C'est
Bah
pas
moi, j'ai
possible.
adoré, tu
Non, mais les
vois.
deux, ils jouent comme des enclumes. C'était
Ah non.
deux top modèles, hein, il me semble. Hein. La femme,
Ouais,
j'ai
deux
oublié son
mannequins,
nom.
ouais.
Ouais, voilà. C'est deux enclumes. La femme, ensuite, elle a joué dans, de mémoire, La Momie, je crois, ou dans Suicide Squad, où elle fait une sorte de momie, où c'est une enclume, encore pire, quoi, aucune expression. Et la première scène où on voit les héros, on va parler de la journée de la femme après, bah, c'est du sexisme total, quoi. Où
C'est du
le mec
sexisme total, ouais.
se sert de la meuf, non, je vais te baiser, excusez-moi pour le langage, mais c'est ni à fait ni à faire, et c'était avant MeToo, et je pense qu'une scène comme ça aujourd'hui, elle passerait plus, quoi.
C'est fort probable, mais ça n'enlève pas que le film était pour moi en tout cas plutôt réussi. Mais bon, revenons au cinquième élément, puisque nous ne sommes plus
Ouh!
d'accord, on va éviter de
Ouh!
ces. Je hais Zack Snyder. Ça faisait longtemps. Je pense que les auditeurs écoutent toute l'espoir en disant, mais j'espère qu'ils vont le répéter. Et non. Ça y est, c'est chose faite. Non, non, ouais, le cinquième élément, vraiment, on vous le conseille. Revoyez-le si vous l'avez déjà vu, en essayant de prendre en compte ce qu'on vient de vous dire sur le double aspect, sur le film un peu double emploi. Et si vous l'avez jamais vu, que vous faites partie de la jeune génération à pas forcément avoir vu ce film-là, précipitez-vous sur ce film. Alors, vous serez peut-être un peu déçu par les effets spéciaux et les costumes. Mais enfin les costumes, non pas forcément, mais les effets spéciaux de l'époque, voilà, sont un peu moins bons que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais ça reste un film vraiment culte. Et au niveau des costumes, justement, je parlais. Tu sais qui a créé les costumes pour le film?
Je dirais Jean-Paul Gaultier.
Ah exactement, bien vu. Bon, de toute façon, on reconnaît sa marque, hein.
Oui.
Mais oui, c'est Jean-Paul Gaultier, donc notre célèbre notre célèbre créateur de mode styliste français qui a eu carte blanche pour tous les costumes du film et qui sont devenus iconiques d'ailleurs parce que chaque costume a sa part d'importance dans le film, si j'ose dire.
Ouais, et on reconnaît sa patte, tu l'as dit, oui. Et c'est nickel, il n'y a rien de plus à dire, mais j'essaye de meubler. Ça se voit?
Non, pas du tout, juste un peu. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le cinquième élément,
Ouais.
donner encore envie à quelqu'un? Ah, vas-y, si tu as des
Ouais,
petites infos. T'as pas une question pour moi? Il n'y a que moi qui pose des questions.
Ah
J'ai
ben
l'impression qu'il n'y a
voilà.
que moi qui ai travaillé.
Ben, je voulais me venger, comme tu as
Ah.
tenté de me piéger en me posant une question, c'est la vengeance. Est-ce que tu sais que c'est un des rares films où le héros et le méchant ont
Ah,
une.
stop, 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 stop.
Dis-moi.
Ah là là, tu sais quoi, j'allais te poser cette question
Oh
en
non!
conclusion.
Ah!
Et en plus, tu me dis j'ai envie de te piéger et tu me poses même pas en question. Moi,
Oh
j'allais te poser
zut!
la question, quel fun fact est étonnant pour un film comme celui-ci? Tu vois?
Je réponds
Ça,
alors,
c'est.
hein. Le héros et le méchant ne se
Voilà.
parlent jamais.
Exactement. C'est le seul film, enfin, c'est peut-être pas le seul, mais c'est un des rares films où donc Bruce Willis et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais l'excellent Gary Oldman,
Ah bah oui.
pour la plus jeune génération, le commissaire Gordon dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, ils ne se croisent jamais. Et pourtant, on a l'impression qu'ils se vouent une haine et qu'ils se cherchent pour se détruire mutuellement. C'est fou, c'est fort quand même.
Ouais. Mais ça participe à la réussite du film et j'allais dire à la jouissance quand tu regardes le film, quoi. Ils se haïssent,
Ouais.
même pas ils s'échangent un mot, ils se rencontrent, quoi. Même pas ils s'échangent un regard, c'est génial.
C'est ça. Et vraiment, ce film-là, cette anecdote-là, ce fun fact, quand je l'ai trouvé, je me suis dit, mais non, mais c'est faux ce qu'il raconte sur Internet. Et j'ai re-regardé le film et j'avais ça en tête et je dis, putain, mais c'est vrai, ils se voient pas. Alors, ils se croisent quand même, hein, tu dis qu'ils se croisent pas, mais si, ils se croisent vers la fin du film quand ils reviennent sur l'aérogare, là, quand ils redescendent son vaisseau, Gary Oldman, The Zog. C'est Zog, hein, de mémoire, le méchant.
Moi,
Oui, c'est
j'aurais dit
ça, Zog.
Zorg, non?
Non, Zorg, c'est dans. C'est autre...
Spirou.
Ouais, Zog ou Zorg. Bref, le méchant, Gary Oldman.
Hmm.
Quand il redescend du vaisseau pour revenir. De son vaisseau pour revenir sur la croisière, eh ben, ils se croisent. Ils se croisent, mais
Ah, oui, tu as raison.
ils sont à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. Gary Oldman voit Bruce Willis, mais Bruce Willis ne le voit pas.
Oui, tu as raison, ils se
Mais
croisent.
effectivement.
Mais ça compte
Donc tu
pas,
n'as
donc
pas.
j'ai raison.
Ça compte pas. Mais tu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais tu n'as pas pu te venger. Et ça me fait extrêmement plaisir.
Mais je me vengerai plus tard. Et je me venge là tout de suite en te disant que c'est bien Zorg et non pas Zog. Et toc.
Oh, ouais, d'accord. Et voilà, et toc. Donc voilà. Bon, ben super. Écoute, si on n'a rien d'autre à dire, à part aux gens de se jeter sur ce film ou se rejeter sur ce film pour voir ou revoir ce classique, c'est en tout cas ce que nous vous conseillons. Qu'est-ce que tu proposes ensuite, Chris?
Mais je te propose une petite pause musicale avec les Beach Boys à Get Around. J'ai un accent
Allez, les
anglais
Beach Boys.
époustouflant.
I get around.
On y va.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
I get around.
get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around.
Ah, super, moi j'adore cette musique. Elle est, comment on dit, elle met la pêche en vrai.
Elle met la pêche, elle donne envie d'enflammer le dance floor.
Ouais, c'est ça, ça donne envie d'enlever sa chemise et de danser. Et j'enlève ma chemise, tu vois.
Voilà, ah bah allez, enlève ta chemise. Garde le t-shirt hein, quand même que tu as en dessous, s'il te plaît. Hein.
Ok, promis. On passe à Dune 2.
Allez, c'est parti. Les gens sont en attente de savoir ce qu'on a pu en penser. Et si on leur conseille d'aller voir s'il ne s'est pas encore chose faite.
Ouais, je hais Zack Snyder. Zut, j'ai foiré ma blague. Jingle.
Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Dune 2, comment on procède? On commence par le pitch? Je te laisse faire ou je balance?
Ah non, allez, vas-y, tu balances.
Je me lance. Alors, ça raconte la suite de l'histoire de Dune 1 qui est sortie il y a 2 ans. Démerdez-vous voilà, avec ça. Donc, ça commence avec Paul Atreides, ou Atreides, je ne sais plus comment on dit, qui est bloqué sur Arrakis et qui veut se battre avec les Fremen, le peuple autochtone de la planète Arrakis, contre les Harkonnen pour la reprise du contrôle de leur planète. Voilà, on peut faire plus compliqué comme pitch, mais c'est bien, non? Tu veux ajouter un truc?
Non, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, il veut quand même surtout se venger. C'est la grosse partie de l'histoire du début, justement, où la question se pose. Est-ce que je veux prendre part au combat? Pourquoi est-ce que tu veux prendre part au combat avec nous, Fremen, car tu n'es pas des nôtres? C'est d'abord par un esprit de vengeance, parce que, rappelons-le, dans le premier opus, son père se fait tuer par les Harkonnen.
Oui, effectivement. Mais j'ai pas vu moi, cet esprit de vengeance, quoi. Il est plutôt pendant 2 heures, il est un peu apathique, j'ai trouvé le héros. Hein.
Il en parle beaucoup avec sa mère, justement, parce que sa mère à un moment le dissuade justement de prendre part au combat, et il dit qu'il veut absolument venger son père, venger la mort de son père, et que même si le combat des Fremen au début du film lui est pas forcément destiné et lui est un peu égal, lui ce qui l'anime c'est surtout la vengeance de tuer les bourreaux de son père.
Alors c'est fou parce que moi j'ai vu l'inverse. Moi j'ai vu le mec apathique qui veut qui prend la cause des Fremen pour lui, pour avoir un nouveau but dans sa vie et éventuellement arriver à la vengeance. Parce que il me semble, hein, j'ai vu le film il y a samedi, il me semble que plusieurs fois dans le film il dit que la vengeance c'est pas sa priorité première, quoi.
Alors là on va pas être d'accord, parce que justement c'est sa priorité première, parce que au tout début il ne se croit pas être le messie que les Fremen disent, et voilà, il a envie d'avoir une nouvelle famille, si je puis dire, mais il est animé par la vengeance. Et là je t'encourage, comme le cinquième élément, à utiliser ta carte UGC illimitée pour revoir une seconde fois le film. Ça va te permettre de voir qu'il est tout d'abord animé complètement par la vengeance, et jusqu'au bout d'ailleurs.
Challenge accepté, comme dit l'autre, mais moi j'avais vraiment compris ça de cette façon-là. C'est par opportunisme, il fait cause avec la. Il fait un avec la cause des Fremen, quoi.
Oui, mais par souci de vengeance, dans un premier temps. Et ensuite, il embrase le rôle qu'il embrase sans spoiler davantage.
Alors moi je vais spoiler, hein. J'y reviendrai plus tard, mais je vais spoiler, je m'en fous. Par contre, toi, voilà. Tu penses que. Tu dis que son refus de prendre corps de prendre part active au combat c'est dicté par son envie de vengeance. Ça lui rend sa vengeance.
Non, 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 non. Ça, c'est juste parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas être, il ne veut pas être l'élu qu'on dit de lui. Mais c'est pour ça qu'il veut pas prendre au combat, enfin prendre part au combat dans le sud et qu'il veut rester vraiment au niveau du nord et proche de la cité d'Arrakis, justement par souci de vengeance, parce qu'il a envie d'en finir très rapidement avec les Harkonnen et qu'il a pas le temps de s'ennuyer avec une tâche de messie et de réunification des peuples. Il a pas le temps. Il faut d'abord qu'il aille venger son père. C'est ça que je dis.
Alors ça, c'est très intéressant, parce que j'avais pas vu du tout cette histoire-là de vengeance pour moi. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas revu le Dune 1 avant d'aller voir le 2, et que c'est des souvenirs assez anciens, que je n'ai pas vu j'ai perdu mes mots, aide-moi, cette épopée dans l'histoire, ouais. Ou est-ce que j'ai vraiment rien compris?
Au 2, peut-être ou l'autre, ouais. Non, mais c'est l'une des toutes premières scènes du film avec sa mère, où sa mère essaye de le dissuader justement de plusieurs choses, et où pour lui, il faut qu'il venge son père, donc quoi qu'elle dise, de toute façon, il ira se battre, mais il ira se battre rapidement, et il n'ira pas dans le sud, pour rassembler les peuples.
Alors là, sur ça, tu vois, on va parler de sa mère, du coup, donc ok, elle lui dit, fais pas ça, mais par contre, elle embrase son côté messie rapidement, quoi. On lui dit où tu meurs.
Parce qu'elle sait. Oui.
Vas-y, termine.
Non, 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 je disais oui, effectivement, elle embrasse ce côté messie, mais un peu d'abord sous la contrainte, et parce qu'elle sait que c'est la seule manière de protéger son fils de ceux qui ne croient pas du tout à ça.
D'accord. Elle est quand même manipulatrice, quoi. On est d'accord sur ça.
Manipulatrice et très, très opportuniste, parce qu'elle y voit là une opportunité de prendre le contrôle total de son ordre, que sont les Bene Gesserit. Ouais, c'est vrai que des termes sont très compliqués hein, dans Dune, même en ayant vu Dune 1 et en l'ayant revu juste avant d'aller voir Dune 2, il y a quand même des termes qui sont le Ben Al-Saïd, les Bene Gesserit. Les termes sont compliqués quand même. Hein.
Oui, notamment Ali, alors j'ai oublié, zut, mais il appelle de trois noms différents, quoi. Usul, ouais. Paul Atraïd, Ali, je sais plus quoi, et Moudaïb.
Moudaïb, ouais. Ouais. Donc, ouais. C'est plein de termes qui sont très propres à l'auteur de Dune. Hein, mais, et c'est vrai que dans un film, comme on n'est pas plongé dans un roman et qu'on ne lit pas en fait, ces mots pendant X pages, c'est vrai que des fois, on a du mal un peu à suivre. Mais c'est tout l'enjeu de Dune et du cinéma, de toute façon, de Denis Villeneuve. Mais reviens-en à la mère de Paul Atreides. Je sais que tu voulais débattre à son sujet.
Ah non, non, je voulais juste dire que c'était une vraie manipulatrice, qu'elle avait embrasé et rembrassé son éducation un peu trop rapidement, avec un peu trop de délectation. Mais ça montre bien que que toute cette caste de Bene Gesserit ou Gesserit, je me souviens plus comment on dit, c'est des vraies petites ordures, quoi. Elle préside à la destinité de milliards sans se soucier des conséquences.
Exactement.
On voit dans le film que c'était qui sont à l'origine de tout, et notamment de tous les morts, quoi.
Et de tous les morts et de toutes les vies aussi, on peut le dire.
Ouais.
Et d'ailleurs, on va parler un peu du casting. Donc le casting qui était déjà fabuleux dans le premier opus se voit encore plus fabuleux dans le deuxième opus. Voilà, donc Rebecca Ferguson qui joue la mère de Paul Atreides. Paul Atreides qui est joué par un excellent Timothée Chalamet, Zendaya. On a le retour de Christopher Walken, exceptionnel dans le rôle de l'empereur de toute cette galaxie. Voilà, c'est vraiment un casting hors pair. Je ne sais pas ce que tu as pensé du casting, toi.
Il est super. Ils jouent tous très bien. Pardon, je tousse. Non, moi j'ai adoré. Il n'y a pas une fausse note dans le jeu. Tu crois à tout du début à la fin. Il y a aussi une jeune actrice qui joue l'amie de Zendaya, de Shanna, oui. et qui est parfaite aussi, et qui était dans Making of de Cedric Kahn.
Exactement.
Elle était super dans le film. C'est Souheila Yacoub. Elle est géniale. Donc, chaque fois que je vois un film avec elle, elle est géniale, quoi. Souheila Yacoub, ah ouais. C'est le nom que je cherchais.
Mais ils jouent tous vraiment tous juste hein, dans ce film-là. et on dirait des rôles vraiment écrits pour eux. Et j'ai envie de dire, ils jouent vraiment tous bien, mais si on devait trouver une fausse note sur le, pas sur le casting, mais sur, sur la façon de jouer, j'ai envie de dire, c'est le personnage principal qui je trouve, joue le moins bien de tous. Je sais pas ce que t'en penses.
Timothée Chalamet ?
Ouais, malgré qu'il joue extrêmement bien dans le film, attention, hein, je suis pas en train de critiquer son travail, parce qu'il est extraordinaire, mais si on devait faire un classement de comment jouent les acteurs, voilà, j'ai envie de me faire un petit classement, mais j'ai envie de dire que Timothée Chalamet, c'est peut-être celui qui joue le moins bien de tout cet excellent casting.
Ouais, mais je te rejoins, mais je pense qu'il est, c'est à cause du montage. Dans le film, c'est pas dit explicitement, mais on comprend qu'entre les séquences, il y a du temps qui sépare une séquence d'une autre. C'est pas dit, il n'y a pas de ligne de dialogue qui nous le dit, pas d'intercalaire, etc. Donc faut bien suivre le film pour comprendre que beaucoup de mois se sont passés entre les séquences, parce que tu pourrais croire que ça intervient tout de suite après, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, on a du mal à voir son évolution. Ce que je disais tout à l'heure, pendant 2 heures, il nous fait je veux juste tabasser des gens dans le désert. Et à la fin, il nous fait le discours de guerre de je sais pas qui, on va tous les niquer, on va tous les enculer, tous avec moi, c'est moi le plus fort, etc. Et ça vient d'un claquement de doigts, quoi. Et je pense que c'est le montage qui donne cet effet de soudain, quoi.
C'est vrai que c'est le plus frustrant dans le film. Après, voilà, Denis Villeneuve, hein, donc qui en est le réalisateur, s'est un peu expliqué là-dessus en disant que c'est quand même un livre très compliqué à adapter, et ça, on peut le croire. Et il a dû faire des choix stratégiques et des choix d'adaptabilité de scénario, chose qui n'avait pas forcément été faite dans le premier Dune des années 80-90, qui était de David Fincher et qui était une daube monumentale. Désolé, David Fincher. Ces choix stratégiques, on fait des sauts dans le temps qui sont pas forcément marqués, et c'est vrai qu'on voit un changement de comportement vraiment très abrupt. Voilà, il passe de petit agneau à seigneur de guerre en un claquement de doigts, et c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi.
Ouais, et on voudrait nous faire croire qu'il a ce changement soudain parce qu'il a bu l'eau de vie. Bleuâtre d'un vert bébé. Bon, c'est un peu léger, quoi.
C'est un peu l'ombre au tableau de ce film, mais... Oui, c'est pas la seule, mais on va y revenir. Mais bon, pour défendre un peu le réalisateur, voilà, moi j'ai lu le livre, et je peux vous dire que c'est quelque chose de très compliqué... très compliqué, pardon, et très condensé et très difficile à retranscrire à l'écran, et je trouve quand même que le pari est vraiment très bien réussi. Donc, sinon, quelle autre ombre au tableau as-tu vu à travers ce long métrage de 2h46, quand même, nous le rappelons?
Ouais, 2h46. Mais tu ne les vois pas passer, c'est ça qui est bien. Juste avant de répondre à ta question, je viens de dire que moi, j'ai aimé le film, hein, malgré les critiques et les bémols que je dis. J'ai vraiment bien aimé le film et je n'ai pas vu passer les presque 3 heures, quoi.
Oui, mais t'inquiète pas, les auditeurs commencent à te connaître. Tu es un critiqueur fou, même quand tu aimes, tu sais critiquer. Et ça, on t'aime pour ça, Chris.
Tant mieux. Mais moi, je veux parler du méchant alors, de Austin Butler, qui se rase la tête pour montrer qu'il est méchant. Il joue le rôle de, j'ai pas très bien compris, le neveu ou le frère ou je sais pas qui de l'empereur. Ouais. Enfin, pas de l'empereur, pardon, du baron.
Du baron. Arconen. Le Nabaron. Le Nabaron. Voilà. Paul Roth, pas Paul, mais Rota. Je sais plus.
Ouais, j'ai oublié. Et alors, il est censé être méchant et on nous montre qu'il est méchant, mais avec des ficelles de série B, quoi. C'est-à-dire que tu le vois. Alors, il y a un fétichisme quand même pour montrer qu'il est méchant. C'est pas le premier film qui fait ça. Donc, on le voit quasiment à poil avec des femmes qui l'habillent. Et ses premières victimes, ce sont des femmes. Inoffensives, hein. Elles sont là, elles portent un pot et une serviette. Un pot et une serviette pour l'essuyer. Il prend un couteau. Est-ce que ce couteau est bon? Pour le tester, il en tue une, quoi. Et puis, tiens, on va en tuer une deuxième. Alors, ça prouve qu'il est méchant. Oh, oui, oh, oui, oh, oui. Et,
tu n'as pas lu le livre. Tu n'as pas lu le livre d'une.
Non, Christ. Je n'ai pas lu le livre d'une. Vas-y, dis-moi pourquoi.
Ces femmes sont là pour ça. C'est l'espèce... Alors, je ne saurais plus te dire le nom, mais à travers le livre, c'est bien explicite. Et c'est en fait, c'est une espèce dans la galaxie qui a été réduite en esclavage par les Harkonnen. Et en fait, elles sont là pour assouvir les désirs de cruauté et les envies de meurtre, justement, de tout le peuple Harkonnen.
Non, alors c'est quand même dingue que ce peuple survive, survive de cette façon, quoi. Parce que ensuite, la deuxième scène, c'est un truc incompréhensible, c'est son anniversaire, ok, et ben, pour son anniversaire, il doit tuer des gens. Mais des gens drogués, attention, hein, il faut pas qu'ils soient en pleine possession de leur capacité. Et pareil, un peu plus loin dans le film, il tue une autre personne, mais elle est enchaînée, donc complètement tabassée déjà, on l'imagine, il a brûle vif. Et le seul combat qu'il a en 1 contre 1, bon, il le perd, donc il n'est pas si bon que ça. Et en plus, c'est un
Bah
combat
non, t'es
minable,
méchant.
quoi. C'est
T'es méchant.
minable, c'est mal
Il a, il
filmé.
en, le jour de son anniversaire, y a pas, il y en a un qui n'est pas drogué et justement il arrive à le battre. Donc ce n'est
Oui,
pas le seul combat
alors, effectivement,
qu'il
il n'est pas
fait.
drogué, mais c'est un survivant Atreides, et il a passé combien d'années dans les geôles, quoi.
Ah
Donc,
oui, bah écoute, hein,
il n'est pas en pleine
mais
capacité
c'est
de
un
ses
maître
moyens,
expert.
quoi.
C'est un maître expert, donc normalement il doit être le meilleur de tous.
Dis-moi, t'aurais pas du
Mais
sang
bon, je te
Harkonnen,
rejoins un
toi?
peu. Hein?
N'aurais pas
Si,
du sang
si, si, si.
Harkonnen?
Mais tu sais, moi tu me connais, les méchants, c'est ce qui m'anime dans les films, alors je peux pas les critiquer.
Ouais, ben pour moi, c'est pas un vrai méchant, quoi. C'est vraiment
Ah, après,
le méchant de série B. Pareil, il fait lécher ses bottes à son oncle, je crois, pour montrer qu'il est méchant. Il y avait
à
d'autres
son
moyens de
frère.
faire ça, quoi. Son frère.
Ouais, alors ça c'est pareil, moi c'est ma grosse déception du film. C'est donc ah bah ça y est, j'ai mangé son nom,
Dave
qui joue Drax,
Bautista.
Dave Bautista, voilà, qui joue aussi Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Ah là là là, mais c'est un froussard peureux qui fuit et qui se fait démonter par tout le monde. Et je trouve que ça ne va pas du tout avec le personnage de Dave Bautista, qui a quand même un physique impressionnant. Alors peut-être que c'est une volonté, mais j'avoue que j'ai été un peu déçu du sort qui lui est réservé, donc au frère de Rota, hein, du Nabaron.
Ouais, surtout quand on sait que lui, il s'est bien joué. Il était dans le dernier film de Shyamalan, avec la secte,
Et la...
j'ai
Ouais,
oublié le
dans la
titre,
cabane,
dans la cabane,
la
ouais.
cabane.
Et qu'il était. Il faisait peur, mais rien qu'en parlant doucement, quoi. Il était horrible. Il était horrible dans son
Alors là,
rôle.
c'est pas qu'il joue mal, hein, dans le film. Moi, je trouve pas qu'il joue mal du tout, parce
Ah
qu'il
non, non,
joue
je dis pas
très
ça
bien
non plus, hein.
le rôle qu'on lui a confié. Mais c'est que je suis déçu de voir un acteur que j'affectionne autant, voilà, être aussi médiocre, hein, n'ayons pas peur des mots. En tout cas, pas dans la façon de jouer, mais dans le rôle qu'on lui a confié.
Oui, et puis avec plein d'incohérences, hein. C'est-à-dire il fuit, mais après quand il voit le personnage qui revient, qui est le maître d'armes de Paul, bah, il se tourne et il se retourne, il fuit plus et il va à sa mort, quoi. Il meurt, mais il y a même pas de combat, hein, si je me souviens bien, hein. Il se prend un
Ah
coup
bah
puis il
c'est
crève, quoi.
directement
Ouais,
terminé.
directement.
Ouais, il n'y avait plus le temps. Ça faisait déjà 2h46 de film, on pouvait pas en
Ouais.
rajouter.
Alors pour les batailles, j'ai un autre bémol, mais avant je termine avec lui, c'est que il y a un truc que j'ai pas compris. Donc lorsque le grand méchant prend ses fonctions, le premier truc qu'il fait, c'est bombarder la base des Fremen. Et tu vois ça et tu te dis, mais il pouvait pas le faire avant. C'est quand même
Oui,
fou.
c'est vrai que c'est une petite incohérence, on se dit, ou alors, et ça encore, c'est un problème de chronologie aussi, et il y a normalement un temps entre sa prise de pouvoir et cette action-là, et il y a une recherche et une chasse à l'homme qui lui permettent de détecter où est la base.
Mais
Et
c'est
ça encore, c'est
exactement
des
ce que je
choses
me
qui
suis
peuvent...
dit. C'est sans doute ça qui s'est passé. Mais comme tu le comprends pas, il n'y a rien qui te montre que le temps a passé. Tu as l'impression qu'il arrive et que oh, la base est là. On y va!
Tout à fait, c'est exactement ça. Mais voilà, encore un souci de chronologie et de difficulté d'adapter l'immense chef-d'œuvre qu'est Dune.
Ouais. J'ai quand même une dernière déception, c'est les combats. J'ai trouvé que les combats étaient nuls. À part les premiers, lorsque les Fremen se cachent sous le sable et qu'ils sortent de. On a l'impression qu'ils sortent de nulle part pour massacrer les Harkonnen, la bataille finale, elle est nulle, quoi.
Ouais, les combats sont. Après, c'est pas l'essence, hein, de Denis Villeneuve. Hein. Denis Villeneuve, c'est pas du tout son genre de film. Mais voilà, on le ressent bien là. Lui, c'est un cinéma d'auteur grand public, si j'ose dire. Voilà, c'est un cinéma d'auteur, mais grand spectacle et blockbuster d'auteur, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, effectivement, c'est. Mais après, on va pas voir un film comme ça pour avoir une énorme bataille
Oui.
épique. Voilà, on y va pour autre chose. Ok, super. Bah écoute, moi j'ai pas d'autre chose à dire sur Dune. Je sais pas toi, est-ce que t'as
Ouais,
quelque chose de positif à dire?
alors oui, de positif, c'est il faut aller voir le film, il est très bien. Faut pas, me fais pas
C'est
dire que j'ai pas dit, il est très bien malgré tout ça.
vrai, c'est vrai. On aime
Et
bien pinailler ici.
oui, il y a Arte qui a sorti le documentaire sur le film Dune avorté de Jodorowsky et qui est un excellent
Oui.
documentaire. Et que je vous conseille parce que on voit tout le préparatif d'un film mais qui n'a pas abouti, les raisons pourquoi il n'a pas abouti, la façon dont, par exemple, ils ont proposé un rôle à Dali, il a demandé des sommes folles. Ils ont été loin dans le développement du film. C'est-à-dire qu'ils ont été demandés alors je ne sais pas comment on prononce, mais c'est le créateur d'Alien, H.R. Giger, ou Giger. Peu importe, vous me direz la bonne prononciation. Donc il a travaillé sur ce film et tu vois que tous ses dessins prédisent entre guillemets le travail qu'il a fait ensuite sur Alien. Tu reconnais la créature, quoi. C'est
Ah
vraiment un
ouais.
super documentaire que je vous recommande aussi, c'est gratuit, c'est sur Arte.
Eh bien, deux choses à voir. Alors, c'est Dune 2 au cinéma de Denis Villeneuve et ce documentaire sur le Dune avorté sur Arte. Eh bien, super. On passe à la suite?
Allez, en avant. Alors, je dis pas de jingle, tiens. On y va les mains dans les poches. De quoi tu veux parler,
Allez,
dis-moi.
on rajoutera un jingle au moment du montage. Allez, c'est parti. Allez, on en parle rapidement. C'est vraiment pour faire le clin d'œil, puisque l'émission est diffusée ce vendredi 8 mars, 8 mars, journée internationale de la femme. Et moi, j'avais juste envie de poser une question, c'est que aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, est-ce bien normal d'avoir des journées justement spécialement dédiées à ces causes, à cette cause-là, alors que voilà, pour moi en tout cas, et je sais que c'est pareil pour toi Christophe, la journée de la femme, c'est tous les jours. Et moi, j'ai un peu le sentiment que de poser une journée spéciale, eh ben, ça renforce un peu ce sentiment d'inégalité. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ben, je suis d'accord, hein. C'est comme le 1er décembre, la journée contre l'homophobie. Ça veut dire que le 1er décembre, on ne doit pas être homophobe, mais le 2, ça va te faire déglinguer la gueule. C'est pas grave, on n'est pas le 1er décembre. Je trouve ça débile, moi, ce genre de journée. Alors après, j'ai une vision très, j'allais dire, anticapitaliste. Moi, je pense que ces journées, elles existent parce que c'est du business. Et que ça va être horrible ce que je dis, mais c'est pas grave. Vous me contredirez si vous voulez, mais je pense que c'est du business d'abord, et que c'est pour ponctionner des subventions aux mairies, aux départements, etc., pour
Un business un peu plus politicard, quoi.
ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça le but premier de ces journées, hélas. Et ça
Alors,
devrait être tous les jours et pas
je
sur une
pense que
date, quoi.
quand elles ont été créées, je pense que ça n'était pas du tout le but premier. Après, ça en est peut-être devenu le but premier. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment dommage, voilà, d'avoir des journées type, alors que ça avait peut-être sa place il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de ces journées-là parce que c'est quand même, c'est pas ancré dans l'esprit de tout le monde, malheureusement. Mais je pense que c'est quand même ancré dans une majorité de personnes, dans les pensées d'une majorité de personnes. Et je pense que voilà, il faudrait arrêter de renforcer ce sentiment d'inégalité pour la femme, pour les personnes homosexuelles, comme tu disais le 1er décembre. Je trouve que ça renforce un message inégalitaire alors que ça ne devrait plus. Voilà.
Ouais, et c'est justement parce que c'est pas ancré dans les mentalités de tout le monde que la lutte, elle doit être tous les jours, à l'année, sur
Exactement.
sur le long terme, et pas sur le très court terme, avec Cotillon et Fanfreluche, pour dire c'est notre journée, écoutez-nous. Non,
C'est ça.
c'est un plan qui doit se faire sur des années, et c'est une lutte de tous les jours, je le répète.
Donc ça devrait être l'inverse. On devrait avoir une journée de l'homophobe, une journée du facho, une fois par an, et après tu redeviens normal comme tout le monde.
Voilà, qu'on sache qui tapait, quoi.
Voilà, exactement. Comme ça, on a une journée pour les foutre en prison ou les enterrer 6 pieds sous terre, et puis on est tranquille.
Exactement. Alors ça c'est délicat de dire ça. Je
Ouais,
couperai.
on comprend.
Ok, ça marche. Ouais, donc
Voilà.
c'est bien que ça
Non,
existe, mais
on
c'est
plaisante ici,
dépassé.
on dit des bêtises, mais voilà, on dépasse les bornes de quelques fois.
Ouais, c'est pas très grave. L'important, c'est que oui, c'est pas moderne, quoi, ce genre de choses.
Exactement. Et voilà, nous, le message qu'on voulait passer en tout cas dans Et alors, c'est que on embrasse toutes les causes et pas une seule journée par an, mais 365 jours par an, on aime les femmes, on aime les personnes homosexuelles, LGBT, qui aiment les autres, des gens du même sexe ou qui ne se sentent pas à l'aise dans leur corps. On aime les personnes de couleur, qu'elles soient noires, blanches, bleues, vertes, jaunes ou autres. Voilà. Ah et alors, on aime la mixité et on aime tout le monde. T'es pas d'accord?
Voilà, et vive les meufs et les PD, comme disait Jean-Louis Murat.
Voilà. Et ça, je pense que c'était très important de le dire. Voilà. Moi, j'avais juste envie de faire un petit clin d'œil à la journée de la femme. Est-ce que t'as pas une petite série, un livre ou un film à nous proposer sur ce thème-là?
Alors, oui, j'en aurais. Mais tout ce à quoi je pense là, c'est ou une série que j'ai pas vue, mais dont on me dit le plus grand bien qu'il faudrait voir, c'est la merveilleuse Mademoiselle Maisel, il me semble, sur Amazon Prime, et je l'ai toujours pas vue.
D'accord.
Le summum dans ce domaine, pour moi, c'est Buffy, le pouvoir girl power au max.
Exactement. Et Buffy, d'ailleurs, très avant-gardiste, hein, parce que voilà, girl power, comme tu dis, on a le personnage de Willow qui aime une autre femme et qui montre en toute liberté son homosexualité et qui est acceptée par tout son entourage. C'était très avant-gardiste, Buffy, hein.
Premier vrai baiser lesbien à la télévision américaine. Un vrai baiser avec la caméra qui ne regarde pas ce qui se passe sur la table de nuit. Non, on voit qu'elle s'embrasse, quoi. Et
Eh bien,
ça pose
bravo.
problème à
Bravo
personne.
à, si j'ai bonne mémoire, bravo à Josh Whedon, hein, c'est ça, hein.
C'est lui, mais après il a eu des gros problèmes avec MeToo. Donc on va dire bravo aux
Oui.
actrices et aux acteurs et aux scénaristes qui ont rendu ça possible.
Oui, voilà, on va dire ça comme ça alors. Super. Bon, bah écoute.
Ben James, c'était bien? Ça t'a plu?
Ouais, super. Ah oui, génial. Merci, merci. Merci pour cette émission riche en anecdotes, en questions, en petits coups bas. Voilà, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime partager ensemble. Un petit message d'amour sur la fin à toutes les personnes qui nous écoutent, d'où que vous veniez, qui que vous soyez. Donc voilà, merci à toi de m'avoir accompagné pendant cette grosse demi-heure.
Merci, merci à toi surtout. Et il y a une personne à qui on ne dit pas merci, et c'est Zack
Zack
Snyder.
Snyder.
Ça, là, je l'ai réussi. Dis-moi, en guise de générique de fin, je te propose Ahmed Saad, Deb Deb, c'est ce que j'écoute en boucle en ce moment. C'est un chanteur égyptien. Je te propose sinon Mylène Farmer, Histoire de fesses. Qu'est-ce que tu
Allez,
préfères?
bah on va mettre ça. Je lance Mylène Farmer Histoire de fesses.
Parfait, ben on se dit à la semaine prochaine, au revoir tout le monde.
Et bah, allez, on se dit à la semaine prochaine, au revoir tout le monde, et on vous laisse avec Mylène Farmer Histoire de fesses. Allez, ciao, ciao, à la semaine pro.
Je maudis les opportunistes à grands coups de triche. Se fiche des dommages collatéraux collards à tige. Je maudis les riches chiches, les pastichèmes. Les pâtes au sel, les pâtes au sel. J'aime nos blêmes, j'aime.
Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un con, c'est un cas, je le confesse. Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un cas, c'est un con, je le confesse.
Des viols de rétine.
Mais j'aime. Histoire de, histoire de,
histoire de fesses. C'est un con, c'est un cas, je le confesse.
J'entends pas bien.
Fesses.
Qu'est-ce que tu fais ce soir?
Histoire de...